Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler de la loyauté familiale, cette forme de fidélité qui nous pousse à agir ou penser comme notre famille, souvent de manière complètement inconsciente. Nous sommes littéralement portés par une puissante et inconsciente fidélité à notre histoire familiale, disait Hans-Anselin Schützenberger. Mais alors, pourquoi sommes-nous loyaux à notre famille? À quoi nous sert cette loyauté? Dans l'histoire de l'humanité, la loyauté familiale, c'est d'abord un élément indispensable à la survie. Pour le comprendre, mettons-nous un instant à la place de l'homme préhistorique qui doit sa survie dans un monde hostile à son appartenance au clan. À cette époque, l'exclusion du clan, c'est la mort assurée. Il est donc nécessaire de collaborer et d'échanger avec les autres, dans le respect des règles fixées par le clan, pour être accepté et garantir ainsi sa survie. En d'autres termes, la loyauté au clan est inscrite dans nos gènes depuis des milliers d'années. Pour aller plus en profondeur dans cette notion de loyauté familiale, il faut se représenter la famille comme un système qui, comme tout système, dans la nature notamment, va chercher à assurer sa persistance en maintenant son équilibre. Le psychanalyste hongrois Ivan Bozormény Nagy a montré que c'est avant tout la loyauté qui assure la cohésion des systèmes familiaux, permettant ainsi le maintien de l'équilibre familial dans le temps. C'est parce que je reproduis ce qu'ont fait mes parents avant moi, en termes de métier, de lieu de vie, de mode de vie, de schéma relationnel, que je garantis la cohésion familiale qui permet à ma famille de se perpétuer en tant que groupe. A l'inverse, la déloyauté au clan peut mettre en péril la cohésion familiale, tout comme un soldat qui déserte peut faire émerger l'idée dans la tête des autres et affaiblir toute une armée. Ce peut être le cas lorsqu'un enfant souhaite choisir une voie professionnelle différente de celle de sa famille, je pense à un artiste dans une famille de comptables par exemple, ou lorsqu'une personne choisit comme conjoint ou conjointe une personne de confession religieuse différente. Cette loyauté, qui finalement est une condition constitutive de l'existence de toute famille, est renforcée par nos dettes vis-à-vis des différents membres de notre groupe familial. Dans chaque famille, il existe ce qu'Ivan Bozormény Nagy a appelé un grand livre des comptes familiaux, dans lequel sont inscrites symboliquement les dettes et les créances de chacun. La première des dettes étant celle que nous croyons avoir vis-à-vis de nos parents pour nous avoir donné la vie élevée, auxquelles s'ajoutent d'autres dettes comme par exemple le sentiment d'être redevable vis-à-vis d'une tante qui aurait financé nos études, ou de grands-parents qui se seraient occupés de nous dans notre enfance. C'est là que vous commencez à entrevoir que la loyauté est à la fois une force positive, constructive, puisque c'est elle qui permet la cohésion d'un groupe humain, mais qu'elle peut aussi s'avérer destructrice en ce qu'elle peut nous enchaîner, c'est-à-dire nous empêcher de faire nos propres choix et d'accéder ainsi à notre individualité. Et comment se manifeste concrètement la loyauté familiale? Une partie de la loyauté familiale est visible, identifiable assez facilement. Les familles dans lesquelles tout le monde exerce le même métier depuis plusieurs générations, par exemple. Ce peut être une forme de loyauté positive si chacun s'épanouit dans ce métier et préserve par ailleurs sa liberté. Là où la loyauté devient destructrice, c'est lorsqu'elle vous empêche d'être vous-même, lorsque vos choix sont guidés par cette force invisible, sans même que vous en ayez conscience. J'entends souvent des personnes me dire « Mais je me demande bien pourquoi j'ai choisi ce métier. » Et après quelques minutes de réflexion, « Mais c'est parce que dans ma famille c'était comme ça et il n'y avait même pas la possibilité d'envisager de faire autre chose. » Il arrive aussi que cette question porte sur le choix du conjoint ou de la conjointe. Et après réflexion, il s'avère souvent que celui-ci ou celle-ci correspondait à l'image du gendre ou de la belle-fille idéale dans la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loyauté familiale est souvent inconsciente, c'est-à-dire qu'elle est agissante sans même qu'elle ait été verbalisée par les parents ou la famille. Souvenez-vous que nous intériorisons de manière inconsciente les demandes et attentes de nos parents, qui elles-mêmes sont parfois inconscientes. Il arrive par exemple qu'une personne ne se donne pas le droit d'exercer un métier qui lui permettrait d'accéder à une classe sociale supérieure à celle de ses parents, en échouant systématiquement à ses examens alors qu'il a les capacités de réussir. Ou qu'une autre ne s'accorde pas le droit d'être heureux en loyauté à la tristesse de ses parents qui ont vécu un grand drame comme la perte d'un enfant. Je rencontre aussi souvent en consultation des loyautés inconscientes aux personnes décédées. Je ne m'autorise pas à quitter mon conjoint car ça aurait déplu à mes parents qui sont pourtant décédés. Ou je ne m'autorise pas à vivre mon histoire d'amour avec un jeune homme allemand, car mon grand-père a été déporté dans un camp de concentration. Il existe des situations où la loyauté est particulièrement forte. Les personnes qui n'ont pas d'enfants peuvent se sentir obligées de manifester leur loyauté d'une autre manière, en se dévouant pour leur famille par exemple. Il est couramment admis également que les enfants maltraités sont les plus loyaux à leurs parents. De même, plus un groupe familial est soumis à une forte pression extérieure, comme dans le cas de l'immigration par exemple, plus une forte loyauté sera attendue de la part des membres du clan. La loyauté à nos parents peut se manifester également de manière indirecte dans nos relations aux autres. Par exemple, certaines personnes choisissent un conjoint qui ressemble dans son comportement à leurs parents défaillants, ce qui leur permet non seulement de rester dans ce qu'elles connaissent, mais aussi d'éviter de remettre en cause le modèle éducatif de leurs parents et ainsi de leur rester loyaux. Il existe aussi des manifestations de la loyauté qui sont assez extraordinaires. J'ai un exemple qui me vient, c'est celui d'une jeune femme qui se rase complètement la tête, sans explication, à 25 ans, et qui découvre ensuite que son arrière-grand-mère avait été tondue au même âge à la Libération, car elle avait été soupçonnée d'avoir une relation avec un soldat allemand. Quelle que soit la forme qu'elle prend, cette loyauté familiale est pernicieuse, car elle nous empêche de faire nos propres choix et de devenir nous-mêmes, et nous enferme dans un schéma de pensée et de vie qui ne nous appartient pas. Elle est à l'origine de répétitions douloureuses de schémas de vie sur plusieurs générations. Comment se libérer des loyautés familiales ? La solution pratique serait d'identifier quelle loyauté nous bloque, puis de décider tout simplement de s'en affranchir. Mais c'est là que ça se complique, puisque la déloyauté à la famille génère presque systématiquement un sentiment de culpabilité profond, tout aussi toxique pour l'individu que la loyauté elle-même. Ce sentiment de culpabilité peut se manifester de différentes manières, des symptômes physiques, une incapacité à avancer dans un projet, des réactions d'auto-sabotage dans notre vie relationnelle ou professionnelle. Ce peut être le cas par exemple d'une femme qui choisit un mari contre l'avis de sa famille et qui, par culpabilité inconsciente, fait tout pour faire échouer son mariage. Une des solutions que je vois le plus souvent pour échapper à la force de la loyauté familiale est la fuite. Mettre des centaines, voire des milliers de kilomètres entre nous et notre famille peut paraître une solution adaptée pour échapper à son emprise invisible. Pourtant, ce n'en est jamais une et elle a souvent pour effet d'accentuer le mal-être et de nourrir un sentiment de culpabilité toxique. À ce sentiment de culpabilité s'ajoutent parfois des difficultés réelles puisque lorsque l'équilibre familial paraît menacé, la famille peut mettre en place de manière consciente ou inconsciente des stratégies visant à ramener ses membres dans ce qu'elle considère être le droit chemin. Le chantage affectif en fait partie, tout comme le marchandage pour la succession, par exemple. Donc, la première chose à faire pour se libérer, c'est d'identifier les loyautés familiales qui sont à l'œuvre dans notre parcours et qui nous freinent. Ensuite, il existe différentes approches. Pour certains thérapeutes, notamment les thérapeutes contextuels comme Catherine du Commun Agit, il est toujours préférable d'offrir notre loyauté, même infime, à nos parents ou nos grands-parents, même s'ils ont été défaillants, pour ne pas risquer de tomber dans une loyauté invisible ou une culpabilité inconsciente qui nous freine. Pour elle, l'enjeu n'est pas de nous libérer de nos loyautés, mais de trouver le moyen de nous montrer loyaux à nos parents d'une manière qui ne soit pas destructrice pour nous. Pour d'autres thérapeutes, il faut se débarrasser de ces loyautés encombrantes grâce à un travail sur soi, sur son enfant intérieur et sur l'adulte que nous sommes devenus pour créer une nouvelle relation avec nos parents ou notre famille. Mais je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Pour ma part, je considère que chaque situation est unique et que la réponse à apporter est propre à chaque personne, à sa situation, à son vécu et à ses besoins. Dans tous les cas, il s'agira de faire un travail sur soi pour aller trouver en soi les ressources qui permettent de se reconnecter sans culpabilité avec son libre arbitre. Pour terminer ce podcast, j'ai envie de partager avec vous les mots sublimes de Delphine de Vigan, extrait de son livre « Les loyautés ». Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.